Maria Malagardis, bonjour.
Bonjour.
Dans votre livre « Avant la nuit », vous racontez la montée des périls au Rwanda dans les 6 mois qui précèdent le génocide. Nous sommes avec 2 casques bleus, un officier canadien et un officier sénégalais, qui enquêtent sur l'assassinat de 6 enfants Hutus, un crime qui a vraiment eu lieu en novembre 1993. Les regards se tournent vers les rebelles du FPR, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que cela.
Oui, ce qu'ils vont découvrir peu à peu, chapitre après chapitre, c'est que c'est vraisemblablement une manipulation, pour une manipulation forcément monstrueuse, pour susciter, on suppose, la colère des habitants, des familles concernées. Et évidemment, ils ont du mal à se faire à l'idée qu'on puisse aller aussi loin que assassiner des enfants pour finalement influencer la population. Et puis petit à petit, ils vont se résoudre à cette idée, mais mois après mois, ils vont surtout se rendre compte, ou plutôt être dépassés par des dangers qui se profilent, qu'ils ont du mal à saisir au début. Et finalement, il s'agira bien sûr du déclenchement du génocide avec les signes annonciateurs qu'on découvre mois après mois et qui sont souvent des épisodes qui ont réellement eu lieu.
À mesure en effet que l'enquête avance, on comprend que ces enfants Hutus ont été sacrifiés par des extrémistes Hutus pour générer la colère contre les Tutsis. Est-ce que c'est une métaphore de l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion du président Habyarimana ?
Alors ce n'est pas une métaphore puisque ça a vraiment eu lieu, mais évidemment ça fait penser à l'attentat contre l'avion dont on peut soupçonner qu'effectivement les extrémistes Hutus aient sacrifié le chef au moment où celui-ci s'était résolu à partager le pouvoir et à installer les institutions de transition qui étaient prévues depuis plusieurs mois.
Cela dit, aucune enquête judiciaire n'a abouti pour l'instant sur cet attentat et la piste du FPR reste aussi l'une des pistes sur lesquelles travaillent les juges.
Alors je ne sais pas si les juges travaillent sur quoi que ce soit puisqu'il y a eu un non-lieu concernant les responsables du FPR qui ont été, en tout cas dans la procédure française, les premiers accusés. Mais vous avez raison de dire que cet attentat est pour l'instant irrésolu, de même que le massacre des enfants, parce que les enquêteurs qui en ont été chargés dans la vraie histoire comme dans le roman vont distinguer plusieurs pièces du puzzle, mais sans aboutir à une action judiciaire, puisque le déclenchement du génocide ne permettra plus aucune enquête judiciaire d'aboutir.
À la manœuvre, dans le crime sordide de ces 6 enfants, qui a vraiment eu lieu donc, il y a un officier rwandais à la tête d'un camp qui se trouve à côté du site du crime. Et il y a un mystérieux homme blanc que vous surnommez Bravo. Vous suggérez qu'il s'agit d'un Français.
Oui, ça c'est la part romanesque. Certains y verront peut-être des soupçons de personnages réels. On soupçonne qu'il a des liens avec des officiers rwandais et des officiers notamment extrémistes. On soupçonne qu'il est Français, qu'il fait partie de ce que le général Dallaire, qui était le commandant de la force de l'ONU sur place, avait appelé les forces des ténèbres, expression qui est reprise dans le roman. Mais ça reste des indices. D'une manière générale, j'ai tenté de créer des personnages composites à partir de plusieurs personnages ayant existé et ayant été liés au destin du Rwanda dans ces mois qui précèdent le génocide.
Votre livre nous permet de recroiser des personnages qui ont vraiment vécu, comme le sinistre Théoneste Bagosora, l'un des cerveaux du génocide. Et puis, comme le général Dallaire, le chef canadien des casques bleus, vous racontez comment un informateur rwandais haut placé, prénommé Jean-Pierre, vient le général Dallaire dès le mois de février que les autorités rwandaises sont en train de constituer des listes de Tutsis à éliminer.
Oui, absolument. Jean-Pierre a existé sous ce nom. C'est un informateur, effectivement, qui était lui-même membre de la garde présidentielle, un officier rwandais, qui avait été affecté à la formation des miliciens Interahamwe et qui, au départ, avait accepté ce rôle parce qu'il était très hostile aux rebelles du FPR. Sauf que peu à peu, il va se rendre compte que l'idée d'entraîner des civils n'était pas uniquement justifiée aux yeux de ses supérieurs pour essayer de reprendre le combat contre le Front patriotique rwandais, mais qu'il s'agissait en réalité d'une entreprise d'extermination qui était en train de se profiler. Et ça, par contre, il n'était pas d'accord. Donc, il a décidé de livrer des informations à l'ONU et au général Dallaire. Sauf que à New York, on va refuser d'exfiltrer cet homme et sa famille, qui était la condition pour laquelle il était prêt à livrer tout ce qu'il savait. Et Jean-Pierre va disparaître dans la nature quand il va voir que la communauté internationale ne souhaite pas l'aider à quitter le pays.
Et ce Jean-Pierre, qui a donc vraiment existé, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui ?
On ne sait pas. Il disparaît complètement en février. Il s'évanouit dans la nature. On ne sait pas même si finalement, est-ce qu'il est resté du côté de ses frères d'armes et a participé au génocide ? Est-ce qu'il a été tué ? Est-ce qu'il s'est enfui dans le Zaïre de l'époque, comme beaucoup, qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo, comme beaucoup de responsables du génocide en juillet 1994, il s'est complètement évanoui dans la nature.
Vous dites que Jean-Pierre informe le général Dallaire sur l'existence de caches d'armes et que du coup le général Dallaire se met à rechercher ces caches et qu'à chaque fois qu'il se rend sur un site, il n'y a plus aucune arme sur place, comme si quelqu'un avait averti les extrémistes Hutus qu'il fallait les enlever à la dernière minute. Et vous évoquez l'existence d'un espion des extrémistes Hutus à l'intérieur du quartier général de l'ONU, l'informaticien Calixte. A-t-il vraiment existé ?
C'est encore une fois un personnage composite. Il y a eu un informaticien qui se prénommait Calixte, qui travaillait dans une autre organisation des Nations Unies et qui va se révéler un fervent défenseur de l'idéologie génocidaire et va prendre part au génocide. Mais il y avait des soupçons que la mission de l'ONU était gangrénée par des espions. En fait, ce qui est fascinant quand on regarde les mois qui précèdent le génocide, c'est de se rendre compte du nombre de choses qu'on savait. Avec toute la difficulté, hein, parce qu'il ne faut pas non plus céder au regard rétrospectif, avec toute la difficulté peut-être d'envisager l'énormité du projet. Tout le monde décelait que quelque chose se préparait, sans arriver parfois ni à recoller les morceaux du puzzle, ni à mettre un nom sur ce qui se tramait.
Vous racontez aussi, Maria Malagardis, comment une note des services secrets belges, on est au mois de février, avertit le gouvernement de Bruxelles que les autorités rwandaises pourraient planifier l'assassinat de casques bleus belges pour les pousser à partir.
Oui, ça fait partie des aspects les plus dingues.
Elle a vraiment existé, cette note ?
Elle a vraiment existé, cette note. Elle est disponible désormais, elle a été déclassifiée. Et donc, elle a été transmise au corps diplomatique sur place, elle a circulé dans les chancelleries. Et donc, le soupçon que se planifiait l'assassinat des 10 casques bleus belges, qui donc a eu lieu le 7 avril.
Pour de vrai.
Pour de vrai. Et pour la raison qui a été évoquée, c'est-à-dire que ce qu'explique le major Hoc, qui était à l'époque le plus haut responsable des services secrets belges, c'est que vraisemblablement, cet assassinat est planifié pour pousser les casques bleus à partir. Et c'est effectivement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura sauvagement assassiné ces 10 malheureux casques bleus belges, la Belgique va plier bagage et la force de l'ONU sur place va se trouver sérieusement diminuée, ce qui laissera le champ libre aux génocidaires pour procéder au massacre.
Et ce qui provoquera le vote de la honte de l'ONU le 21 avril, par lequel le Conseil de sécurité fait partir la quasi-totalité des casques bleus du Rwanda.
Absolument, c'est à ce moment-là que la communauté internationale abandonne le Rwanda, au moment même où les massacres prennent des proportions vertigineuses et qui se dérouleront à partir de ce moment-là à huis clos.
Alors ces 10 casques bleus belges, ils ne sont pas morts instantanément, ils ont d'abord été désarmés, puis faits prisonniers, puis massacrés, ça a duré plusieurs heures. Et apparemment, quand le chef de ces 10 casques bleus envoie par Tokiwoki l'information à ses supérieurs de Kigali, on nous demande de désarmer, le chef de Kigali leur dit « obéissez ». Malgré cette note de 2 mois plus tôt des services secrets belges ?
Oui, c'est quelque chose qui revient souvent dans le roman. Je pense que ça fait partie certainement de la nature humaine. On a du mal à accepter que le pire est en train de se produire. Et cet officier qui était leur supérieur, à ce moment-là, dans la stupeur du 7 avril au matin, au lendemain de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, il sent bien que des choses se produisent. Il y a déjà des barrages, il y a déjà des massacres, il y a déjà toute l'opposition Hutu, on ne le dit jamais assez, qui est assassinée. Les premières victimes du génocide, ce sont les membres de l'opposition Hutu qui auraient pu s'opposer au projet de solution finale.
Et la première ministre, Agathe Uwilingui.
Et notamment la première ministre, et justement, ces 10 casques bleus belges étaient affectés à sa protection. Donc, j'imagine que lui, à ce moment-là, il sent bien que la situation dérape, mais il ne peut pas imaginer que ça ira jusqu'à l'assassinat, qui a été effectivement atroce, de ces très jeunes garçons qui, en plus, venaient d'arriver quelques semaines auparavant au Rwanda. Voilà, c'est difficile de mesurer l'ampleur d'une catastrophe, et je pense que j'imagine qu'on le constate à plusieurs périodes de l'histoire.
Dans votre livre, Maria Malagardis, on croise aussi donc la vie d'Ousmane, hein, cet officier sénégalais de l'ONU qui fait penser peut-être au capitaine Mbaye Diagne.
Oui, c'est une sorte de clin d'œil et d'hommage à cet officier très courageux dont on sait qu'il a sauvé des vies et qu'il a été exemplaire avant de périr lui aussi. Et donc il a été certainement l'un de ceux, sinon le casque bleu, qui a le plus rendu honneur à ce que doit être une mission de l'ONU en terrain difficile.
Maria Malagardis, merci.